bienvenue dans l'émission Route 66 sur Radio RDL 103.5 FM avec Jean-Luc et David.
Bienvenue à tous et c'est parti pour une heure de musique avec une émission qui aujourd'hui sera très amplement consacrée à quelqu'un que je considère comme un véritable multicarte du blues. C'est monsieur Litfoot Alain Rivet, de son vrai nom, qui nous a rendu visite dans le studio il y a de cela quelques jours avec deux de ses musiciens, en l'occurrence le bassiste Chris Méliès et le guitariste Nobar Pacha, afin de revenir sur son parcours exceptionnel durant lequel il a vraiment goûté à toutes les facettes de la musique, puisqu'il a été tour à tour chanteur, harmoniciste, producteur et tourneur. Enfin, il reviendra bien en détail sur tous ces événements tout au long des 55 minutes qui vont suivre. Mais auparavant, je tenais simplement à signaler deux concerts qui vont avoir lieu dans la région et plus particulièrement au CAFCONS d'Ensisheim, puisque nous aurons la chance d'y retrouver vendredi le 17 octobre un chanteur de blues rock, un grand guitariste, c'est monsieur Wild T, et les 22 et 23 octobre deux habitués mais non des moindres, c'est des gens qu'on adore, à savoir le Texan Neil Black et notre ami Fred Chapelier. Je vous rappelle les dates, le 17 octobre pour Wild T et les 22 et 23 pour Neil Black et Fred Chapelier. C'est au CAFCONS d'Ensisheim, ne ratez pas ces deux superbes concerts. Comme promis, on retrouve tout de suite Litfoot Rivet et ses comparses pour cette émission qui leur sera entièrement consacrée. Mais auparavant, on se passe un morceau issu du dernier album en date de Litfoot. L'album s'appelle Grey Boy Blues et le titre qu'on va se passer est I Was All Wrong. Et puis c'est un titre que d'ailleurs ils vous interpréteront juste après en acoustique. Écoutez plutôt et bonne émission à vous.
These wrong things I've been thinking. you're slowly sinking out of the wrong. Baby, baby, I was all wrong. Please forgive me for what I've done. Yeah, I'm gonna put some heart on the end.
Vous êtes sur le 103.5 FM à l'écoute de Route 66. Notre invité du jour est Monsieur Leadfoot Rivet. Tu m'as dit hors antenne que j'avais le droit de le prononcer à la française puisque tu as trouvé des Rivets en Louisiane.
Des parents, sûrement des parents, parce qu'en général les noms, comment dire, ont à peu près tous la même origine. Donc en Louisiane, ouais, lors d'un voyage en Louisiane, les premiers voyages, je cherchais à l'époque des noms des gens qui auraient eu le nom de mon ex-femme, qui avait un nom typiquement du Val-de-Loire, qui était Bottreau. Je me suis dit, Thibaudeau, Bottreau, ça aurait trouvé ça. J'ai pas trouvé de Bottreau, mais j'ai trouvé des Rivets. À Lafayette, à Saint-Martinville, à Scott, à Palousas, à Lake Charles, pas mal de monde.
Alors on va peut-être pour commencer l'émission un petit peu revenir sur la façon dont tu es tombé finalement en amour pour le blues. Alors ça remonte je suppose au début des années 60, puisque c'est vrai que tes premiers groupes remontent à 1962.
En réalité oui, 62 c'était vraiment un groupe amateur, on faisait du rock and roll et du blues, les trucs de Bo Diddley, de Chuck Berry principalement. Et puis ensuite le premier groupe sérieux c'était en 64, fin 64, avec un groupe qui s'appelait les Turnips, dans lequel il y avait quelques survivants, il y a un qui s'appelle Captain Mercier, vous connaissez
ça, hein.
De Soul, mm-hmm. Blues, donc Jacques Mercier, qui était le guitariste du groupe, et qui a commencé à chanter à ce moment-là. Voilà, donc il y a aussi un mec qui était le co-chanteur pendant très longtemps, avec moi, qui s'appelait Gilles Nau, qui était une espèce de grand escogriffe qui chantait très bien, genre Wilson Pickett, et genre comment il s'appelle, Johnny Kidd, enfin ce genre de trucs-là. Mm-hmm. Et là, on a commencé à faire des trucs de soul, de rhythm and blues et de rock. Je faisais des trucs toujours de Bo Diddley, des trucs de Buddy Waters, de Wim Hof. Voilà. Ça a duré environ un an et demi. Et puis ensuite, fin 66, j'ai démarré un groupe qui s'appelle les Murators, dans lequel il y avait Alain Chamfort à l'orgue avant qu'il ne devienne chanteur de variété. Mais à l'époque, il chantait pas. Quand il essayait, c'était épouvantable. On n'aurait jamais cru qu'il puisse chanter un jour, ce garçon. Mais il était déjà très très doué par comme pianiste et organiste. Et puis, il y avait des cuivres, vraiment le groupe de Soul, quoi. Genre, on parlait des Blues Brothers, c'était déjà cette idée-là, quoi. On faisait des trucs de. Il y avait une chanteuse, Aretha Franklin, Wilson Pickett, Otis Redding, Jimmy Hughes, je sais pas, moi j'en ai oublié, Joe Tex. J'adore Joe Tex. Voilà, ça a duré pendant 3 ans.
C'est avec ce groupe qu'on retrouve tes premiers enregistrements sur cette fameuse compile pour le Golf Draw.
Voilà, exactement. Ouais. C'était avec eux, oui. On avait fait en duo avec une fille qui était la chanteuse à l'époque, qui s'appelait Céline, qui est enregistrée chez Vogue aussi, après, en même temps que moi, et qui est devenue ensuite Séverine, chanteuse de variété, qui a gagné l'Eurovision, après, plus tard.
Et en 1967, donc, c'est le premier 45 tours, 4 titres, chez Vogue.
Voilà. Chez Vogue, sous un autre nom. J'ai passé de pseudonyme.
Et c'était toujours dans une veine rhythm and blues.
Très bizarre, parce que c'était deux morceaux originaux français, plutôt rock, et deux morceaux des Seeds, qui était un groupe d'acid rock de l'époque, mais qu'on avait traité en rhythm and blues. Et à Vogue, ils avaient voulu qu'on fasse ça, parce qu'ils avaient ça, c'est la cuisine des maisons de disques, ils avaient ça en édition, ils voulaient qu'on fasse ça. Donc. Voilà, mais c'était cuivre, machin, genre Steven Wood, un peu, tu vois, qui Keep on Running, ou cet esprit-là. Voilà.
Et par la suite, encore une belle aventure, c'était un petit peu plus tard, je crois, en 69, au Théâtre de la Porte Saint-Martin, tu as participé à cette fameuse comédie musicale.
Ah, oui et non, je n'étais pas au Théâtre de la Porte Saint-Martin, mais il se trouve que j'avais pas mal de copains qui jouaient là-dedans, et notamment un grand guitariste qui fait plus grand-chose depuis quelques années, qui s'appelle Jean-Pierre Alarsen, qui a joué avec François Béranger, notamment pendant des années et des années. Fantastique guitariste, et il faisait partie du groupe qui accompagnait la comédie musicale R à la Porte Saint-Martin à Paris. Et à un moment, ils ont fait des auditions pour une troupe qui montait à Bruxelles. Et j'ai postulé, j'ai été pris, on a travaillé à Bruxelles pendant 8 mois. Voilà.
D'accord. Et donc, quel était ton rôle finalement dans la comédie? Tu étais dans le groupe ou alors est-ce que tu étais acteur?
Je faisais quelques, comment dire, des petits rôles.
D'accord.
Intervention, si tu veux. Et derrière, sinon, bah, chacun tient un peu son rôle dans la troupe, quoi. Et puis, bah, sinon, il y avait deux ou trois rôles principaux devant, mais c'était pas moi. C'est un type que j'ai connu, par contre, à l'époque, qui était dans la troupe de Paris, puis dans celle de Bruxelles, qui s'appelait Bill Combs, qui est un grand chanteur noir, soul, qui est un type de San Francisco, qui est devenu pasteur comme son père, d'ailleurs, maintenant. Il a une église à San Francisco. On s'est revu quelques années après, grâce aux Gospel Hummingbirds, qui sont un jour, je discutais avec eux, je les avais fait venir en tournée, Gospel Hummingbirds, et avec Philippe Langlois, on avait sorti leur 40 heures dans leur CD. Et je discute avec eux, je leur dis, ah, mais vous connaissez pas un mec de là-bas qui s'appelait Bill Combs, moi que j'ai connu au début des années 70, et tout, ils me disent, oui, mais c'est un ami, on chante avec lui tout le temps. Alors ils m'ont donné ses coordonnées, et on s'est téléphoné. Voilà, et en plus, Bill, il se trouve que c'est une famille célèbre, hein, fils de pasteur. Sa sœur aînée, c'est une fille qui s'appelle Dorothy Morrison, et qui est la chanteuse lead dans ce tube planétaire qui s'appelle Oh Happy Day par les Winner King Singers. C'était une chance. D'ailleurs, j'ai appris tout à fait incidemment, il y a une semaine, qu'elle allait tourner en Europe et notamment en Italie, avec un groupe de gospel.
Ok. Et évidemment, bon, une question qui ne vient pas de moi, mais que toutes les auditrices de l'émission se posent. Il est vrai que R était une comédie musicale réputée pour ses scènes légèrement dénudées. Est-ce que les spectatrices du théâtre dans lequel tu te produisais à l'époque ont eu la chance de te voir dans ton plus simple appareil?
Non, parce que imagine-toi que moi j'étais très pudique à l'époque, et on était quelques-uns à pouvoir garder notre culotte. Il y en avait suffisamment qui voulaient tout montrer, donc c'était pas un problème. Puis en plus, c'était un peu dans le noir. D'autant plus que, tu fais allusion aux spectatrices, il y avait aussi, à Bruxelles, qui est une ville assez puritaine, qui est près de la ville de Louvain, en Belgique, qui est la ville la plus catholique qui soit au monde. Et très souvent, on avait des religieuses qui venaient manifester contre le scandale que c'était de foutre sa quéquette à l'air. Voilà.
D'autant plus que je crois que la version française de l'événement était plus trash, entre guillemets, que la version américaine. Enfin, c'est un peu la réputation que ça a, paraît-il. C'était beaucoup plus dans l'esprit hippie.
Non, en réalité, non. C'était pareil. C'était fait par les mêmes personnes. Hein. Le mec qui avait fait l'adaptation, c'était un écrivain déjanté français. J'ai oublié son nom. Le mec, c'est marrant. Non, c'était pareil.
D'accord. Et puis après cette expérience en 73, je crois que c'est à ce moment-là que tu commences un petit peu à encadrer des groupes, voire à en produire. Et le premier d'entre eux était un groupe américain qui s'appelait Bad Child. Est-ce que tu peux revenir?
Ouais.
Justement, d'accord.
Qui m'a dit un jour, il y avait un type qui s'appelait Tyrone Scott, qui était un chanteur fantastique, dans l'esprit Smokey Robinson, mais avec une voix beaucoup plus puissante et brillante en même temps, et une très jolie fille métisse. Black et Cherokee, qui s'appelait Cheryl, j'ai oublié son nom de famille. Donc c'était sur un trio. Dorothy Morrison était censée s'y joindre, finalement elle n'a pas pu le faire. Et on a enregistré donc cet album de soul qui était dans l'esprit, tout à fait l'esprit des Temptations de l'époque.
D'accord.
Du psychédélic soul, tu vois. Voilà. C'est sorti sur DECA, malheureusement c'est sorti assez anonymement. C'était un truc fait en Europe, à l'époque c'était difficile de défendre un disque qui n'était pas fait aux États-Unis, si tu veux. Voilà. C'est la politique des maisons.
Ok. Ben nous reprendrons cette conversation juste après un nouveau titre issu de l'album Grey Boy Blues. Ça s'appelle Feed the Cat. C'est le 13e morceau de l'album.
Squeeze your tears, patch your butt,
On en apprend des choses pendant les pauses musicales de l'émission, puisque c'est vrai qu'après avoir parlé de R avec Litfoot Ribet, je l'ai dit un petit peu à l'anglaise, excuse-moi, nous avons appris que le bassiste du groupe, Chris Méliès, avait lui aussi un petit peu fouiné du côté des comédies musicales et avait participé à cette même comédie musicale, mais en Espagne, dans la version espagnole.
Oui, moi, à l'époque, je vivais en Espagne, à Barcelone, puis à Madrid, c'est là que j'ai commencé à jouer. C'est surtout des musiques de... Bon, moi j'ai commencé surtout à mon âge par les Stones. J'ai connu le blues par ce biais-là, quoi. Hein, comme beaucoup d'Occidentaux jeunes. C'était des versions hein, de blues. Et après, on est remonté à l'original, quoi. Bon, puis j'ai écouté beaucoup, évidemment, John Mayall, enfin, tous le blues anglais. Là, j'ai appris à jouer sur ces disques là, voilà. Et puis donc après avoir été dans des groupes de blues, rock, etc. Je suis rentré un peu dans le milieu, et puis là j'ai fait jouer dans une comédie musicale comme Hair d'abord, une troupe anglo-américaine, et puis après la version espagnole de Jésus-Christ Superstar. J'ai fait bassiste pendant 2 ans à peu près là-dedans, voilà. Puis après, de fil en aiguille, je vais la faire brève. Après, je suis rentré à Paris, je suis installé à Paris. C'est là que j'ai rencontré, principalement, et peut-être par hasard par d'autres copains, Patrice Boudot-Lamo, qui joue avec nous, avec Violet Foot. Voilà, donc je l'ai rencontré, tous les deux, on peut dire, on démarrait, on était... dans le départ, quoi. Et c'est le début d'une longue collaboration. Et puis, en fait, avec lui, grâce à lui, on a connu un peu tout le monde du milieu. Et c'est là que j'ai rencontré Alain. etc. Après la suite.
Et dans la voiture, tu me disais que tu es également l'accompagnateur de Marc Bozonnet.
Eh bien, il se trouve, depuis quelques petites années, je suis rentré, j'accompagne Marc Bozonnet, qui lui-même jouait avec Johnny Hallyday, et c'est par le biais d'un batteur célèbre dans le milieu, Alain Doudou Weiss, en fait, qui était pareil un batteur d'un groupe des années 70.
Il n'avait pas joué avec Magma aussi
Il a fait une participation avec Christian Wander, Magma. Voilà. Donc je joue avec Marc Bozonnet, et là nous allons faire un concert au Petit Journal le 17 octobre, avec des invités, surprises, chanteurs, etc.
À Paris.
Oui.
Et ceux qui ne connaissent pas forcément Marc Bozonnet de nom, je tiens simplement à leur spécifier qu'ils pourtant ils l'entendent toutes les semaines, puisque c'est lui qui a signé le générique de l'émission.
Voilà. Il est très dans le country aussi, Là, on l'entend plus que comme blues.
Mais il a fait partie d'un groupe aux USA, un très bon groupe de country rock, dont je me souviens plus le nom. Mais là, je vous invite à aller sur notre site internet, sur laroute66.free.fr. Il y a une interview de Marc où tout est spécifié. On va reprendre tout de suite l'entretien avec Alain. Alors, on arrive à l'année 75, où il me semble que tu signes un contrat avec RCA. Donc un gros label qui te permet notamment de travailler avec Alain Bashung. Alors, est-ce que tu pourrais revenir un peu sur les circonstances?
Ce qui s'est passé, c'est que lui, j'avais déjà entendu un peu ce qu'il faisait dans les années 60, puisqu'il enregistre depuis très longtemps. Et à l'époque, dans les années 60, Alain, il était une espèce de trip rock, parce qu'il a un côté vraiment très rock. C'est un fan de Buddy Holly au départ, de gens comme ça. Il a été, en plus de ça, alors ça c'est un truc très marrant, parce que il a été aussi un des premiers ensuite, les années 60, à jouer dans les bases américaines. Il avait un trio de country music. J'ai eu des photos d'époque où il y avait Mick Larry à la mandoline, qui était un des piliers de la country en France avec Jean-Marie Rodon, et Jean-Marie Rodon au banjo, et lui à la guitare acoustique et au chant. Ils avaient genre 17 ans, 18 ans à l'époque. Ensuite, c'est devenu un rocker symphonique à la PJ Proby, puisqu'il a une voix à tout casser. Hein. Il a cherché à s'en débarrasser par tous les moyens pour avoir une vraie voix de rocker déjanté, mais au départ, il a une voix lyrique pratiquement. Hein. C'est un grand chanteur. Et puis bon, je l'ai connu au début des années 70, moi, par un copain commun. Et à l'époque, il venait de travailler avec Dick Rivers pour plusieurs albums. Et puis on a commencé à travailler ensemble à ce moment-là.
D'accord. Et vous avez enregistré? Comment ça se passait?
Il a fait des morceaux pour mon premier album RCA.
Ouais. Mais en tant qu'auteur, en tant que compositeur.
Ok. Il est surtout compositeur. Ouais. Co-écrit des fois les textes, mais il est surtout compositeur. Ensuite, on a travaillé sur deux ou trois autres albums de gens qui étaient produits par des copains. Et ensuite, il a rencontré Boris Bergman. Moi, je lui ai présenté Jean Fauque, qui à l'époque n'écrivait pas du tout ses textes. Et qui, quand Boris Bergman a lâché la rampe, a commencé justement à lui faire des bluettes. Hein.
D'accord. Et puis évidemment, la fondation du groupe Rocking Chair, ça vient juste après ça?
Ça vient juste après, parce que après l'album RCA plus quelques simples, c'était un album pas très rock, il y avait des trucs un peu influencés par le rock ou la soul, mais c'était quand même un album, ce qu'on pourrait appeler de la chanson variété française. Et là, après, j'ai décidé de vraiment jouer ce que je voulais plus intimement, quoi, d'être quelque chose plus influencé par le blues, le folk et la country. En acoustique, il y avait donc au banjo un type qui s'appelait G.G. Vandestock, qui était un des fondateurs d'un groupe qui s'appelait Wells Fargo. Et il y avait la guitare Patrick Verbeek. Voilà. Et bon, ben, au bout de deux ans, on a travaillé en acoustique comme ça, joué dans les MJC. On a décidé, avec Claude Langlois, que j'avais rencontré par la même occasion, de monter avec Patrick Verbeek et Van de Stock un groupe qui s'appelait Rocking Chair, qui a duré une dizaine d'années. Et on enregistrait ensemble un truc qui était un mélange de country rock et de blues en français. Et on a fait deux albums et quelques simples avec ce groupe-là. Il a marché pas mal du tout.
Voilà. Ok. Bah, tu nous as mis un petit peu l'eau à la bouche avec cet aspect acoustique. Donc, je te propose d'écouter un nouveau titre de ton album et juste après, éventuellement, en compagnie de Stan, ton maniaque du blues, vous allez peut-être nous offrir un petit titre en acoustique. Ok. On se passe immédiatement. Chef Daily Song.
Thank you.
Chief Daily Song, Monsieur Litfoot Rivet, qui est notre invité aujourd'hui. Et sur ce morceau, vous avez pu entendre la patte magistrale de son guitariste Stan Nobar Pacha, qui est également dans le studio. Merci à toi d'être venu encore une fois, de t'être déplacé jusqu'ici. C'est vrai que le temps qui termine de se préparer, là, nos deux invités, puisqu'ils vont nous interpréter un morceau en live et en acoustique. Je tenais simplement à remercier Alain Litfoot Rivet pour... C'est vrai que ça fait des années qu'on se connaît maintenant et tout au long de ces années, tu m'as arrangé bien des fois des interviews. J'ai toujours su compter sur toi et je tenais vraiment à te remercier devant tous les auditeurs parce que c'est vrai que combien de fois tu m'as prêté ton van lorsqu'un festival est un peu trop bruyant pour que j'ai une petite place un peu plus tranquille. Si du Crobillard est venu dans l'émission, c'est aussi grâce à toi puisque je t'avais contacté à ce moment-là. Enfin, c'est vrai que je te dois de nombreuses et de bien belles interviews, donc merci beaucoup.
C'est bien, quand on aime la musique, on se déroule pour que les choses avancent un peu.
Voilà. Donc vous allez nous interpréter un premier morceau en acoustique. De quel titre s'agit-il?
Il s'agit de celui qui est passé au tout début de l'émission.
D'accord.
Qui s'appelle I Was All Wrong, qui est une confession juste avant de mourir.
C'est parti.
Pleurez pas. Thank you.
Yeah.
Merci beaucoup. On vous laisse le temps de vous rafraîchir et on se retrouve juste après un nouveau morceau. Alors c'est vrai que si tu es un grand connaisseur en blues, en country music, en rock'n'roll ou en soul music, c'est vrai que tu es aussi amateur d'autres genres et tu n'hésites pas à les explorer tels que sur ce morceau, les Tango Rabia al Silencio.
Qui est un groupe, un,
un morceau
d'un auteur-compositeur, interprète argentin extrêmement célèbre dans toute l'Amérique du Sud. Il s'appelle Atahualpa Yupanqui, qui est mort depuis quelques années déjà, et qui était à la fois un grand perpétuateur d'une base de musique folklorique, en même temps ce qu'on appelait un chanteur, auteur, compositeur, interprète, et aussi un acteur politique, parce que beaucoup de ses chansons sont politiques ou sociales. Voilà. Le Tango Rabia al Silencio, c'est l'histoire d'un type qui l'enrage. Après le silence qu'il peut y avoir en lui quelquefois, qui l'empêche de dire ce qu'il pense et qui a gâché sa vie.
Ok, ben on se passe tout de suite ta version avec un invité de marque, Monsieur Fred Chapelier à la guitare, évidemment.
Et
c'est...
Au bouzouki,
surtout. C'est parti.
Tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Un día monté a caballo y en la selva me metí. Un día monté a caballo y en la selva me metí. Y sentí que un gran silencio crecía dentro de mí. Y sentí que un gran silencio crecía dentro de mí. Hay silencio en mi guitarra cuando canta un yarabí. Hay silencio en mi guitarra cuando canta un yarabí. Y lo mejor de mi canto se queda dentro de mí. Y lo mejor de mi canto se queda dentro de mí. Le tengo rabia al silencio por todo lo que perdí. Le tengo rabia al silencio por todo lo que perdí. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Guitarra. Todo entero me encendí. Cuando el amor me hizo señas, todo entero me encendí. Y a fuerza de ser callado, callado me consumí. Y a fuerza de ser callado, nunca ya no me consumí. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Le tengo rabia al silencio por todo lo que perdí. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz.
Je vous rappelle que vous pouvez déjà retrouver Alain Lettefoutrivé sur notre site internet à travers une interview qu'il m'avait accordée il y a de cela quelques années déjà, c'était du côté de Besançon, sur notre site sur laroute66.free.fr où il y aura bientôt un reportage sur votre venue dans le show ainsi que les vidéos de celle-ci et l'émission en téléchargement évidemment. Voilà, quand on aime, on ne compte pas. D'ailleurs, je vais en profiter pour vous rappeler également les adresses de tes sites respectifs. Donc, un site internet www.letfootsrivé.com et puis une page MySpace, www.myspace.com/letfootsrivé. Ok. Et puis, il y a une nouvelle aussi qui est tombée sur les téléscripteurs il y a de ça quelques semaines. C'est un événement. Il semblerait que Stan Nubarpacha, ton guitariste, se lance dans l'informatique et aurait même une page MySpace, qui est un événement quand même sans nom. Donc, on va profiter quand même qu'il soit là pour qu'il se rapproche du micro et puis pour lui demander l'adresse, parce que ça intéresse énormément de gens.
Bonne question. C'est Nubarpacha Stan. Je crois que ça doit aller comme ça, en fait.
D'accord. Il suffit de taper ton nom et puis.
Il n'y a pas encore grand chose.
Nubar, beaucoup de gens font une faute, y compris dans le milieu blues, c'est N-O-U-B-A-R-D,
oui,
plus loin de Pacha, ou bon, en informatique c'est tout attaché, mais sinon Pacha c'est P-A-C-H-A, c'est pas Nubar sans D et Pacha avec un T, c'est Nubar avec un D et Pacha sans T.
Voilà. Si vous n'avez pas compris, vous pouvez nous appeler, hein, 03 89 24 12 11, on tentera de vous expliquer ça plus en détail. Vous allez nous offrir un nouveau morceau en live, en acoustique, mais toujours extrait de ton dernier album, ça s'appelle Lit Footing.
Un morceau qu'on a écrit ensemble, Neil Black et moi-même. Thank you.
Magistral, merci beaucoup. Alors, puisque le temps nous est compté, nous arrivons presque à la fin de l'émission. On va continuer par quelques ultimes questions. Je ne te laisse même pas reprendre ton souffle, je suis désolé. On va peut-être un petit peu faire un bond dans le temps, mais c'est vrai que tu as de multiples cordes à ton arc, mais tu es également à l'origine d'un label de blues français bien connu de tous nos auditeurs, à savoir Dixie Frog.
Oh, d'accord. Et donc, Philippe Langlois m'a créé ça en 1986. Donc ça fait 22 ans maintenant. Mmh. Au départ, moi, je suis resté 6 ou 7 ans avec Philippe. Puis ensuite, on a un peu divergé pour des raisons nombreuses et secrètes. Il s'est trouvé qu'il a continué seul l'aventure discographique pendant un moment. Moi, j'ai tourné plutôt vers le côté organisation de tournée blues. Ça a duré une vingtaine d'années. Et pendant ces 20 ans, j'ai commencé à reprendre goût au truc et à justement me remettre à chanter. Maintenant, je fais ça à temps plein depuis maintenant un an. Voilà, Je suis revenu à mes toutes premières amours. Et de temps en temps, on collabore avec Philippe, puisque d'une part, il sort mes disques, et en plus de ça, on sort ensemble quelques artistes, voilà.
Absolument, et puis ce qui nous vaut en tout cas de bien beaux disques depuis quelques années, hein, tu es revenu au premier plan, sous ton propre nom, mais également avec un groupe fondé aux côtés de tes amis Neil Black et Nico Wayne Toussaint, voilà, Blues Conspiracy.
Enfin, Blues Conspiracy, c'est un plateau, et puis là par contre avec Neil et Pat Boudon-Lamo, on a aussi un trio acoustique qui s'appelle The Drink House Preachers.
Exactement, et c'est vrai que ce qui est toujours assez impressionnant lorsqu'on lit les crédits de tes albums, c'est le nombre d'invités prestigieux. Hein. Je crois que, évidemment, au fil de toutes ces années, tu t'es lié d'amitié avec beaucoup de gens qui te rendent bien l'appareil, en tout cas, hein, puisqu'on a vu des sacrés invités sur tes disques. Aussi bien Papa Chubby, tu peux peut-être en citer quelques-uns.
Oui, Papa Chubby que je connais peut-être, c'est peut-être celui que je connais moins. Il a un caractère pour faire plus. Mais par contre, Amos Garrett,
évidemment.
Castro. Duke Robillard, on n'a pas travaillé ensemble sur disque, mais on l'a fait sur scène. Fucking Joe Kubek, le regretté Sam Meyer, avec Anson Funderburg, John O'Connor, etc., etc. Mm-hmm. Et Tom Principato, bien sûr, Neil Black.
Et je crois qu'il y a quelque chose sous le feu, là, tu es en plein travail.
On est en train de faire un album avec Neil et Pat Boudon-Lamo, justement, en train de terminer un album de Drink House Preachers, qui est un mélange de blues, de folk, et d'autres styles musicaux américains. Et moi, je prépare un nouvel album pour 2009.
D'accord. Et tu peux nous en dire plus un petit peu sur ce disque? T'as déjà des idées, une orientation musicale précise?
Ça va être un peu dans le même, dans le droit fil de Grey Boy Blues, avec peut-être encore une plus grande diversité d'influences, parce que là aussi, c'est pareil. Maintenant, je n'ai plus honte d'exposer toutes mes influences musicales.
Voilà, l'émission touche vraiment à sa fin. C'est rageant, on pourrait passer des heures comme ça à discuter avec toi, parce que c'est vrai que tu es une véritable encyclopédie. On va peut-être encore saluer les absents du jour. Hein. Ils sont restés à l'hôtel, ils doivent jouer à la Game Boy. Ce sont nos amis. On est content, en tout cas, de les retrouver juste après, à savoir l'immense Monsieur Fred Chapelier, avec qui tu collabores de plus en plus. Et Lamo, évidemment, qui est... et un grand merci. Ouais, oui, Vincent, c'est vrai que je ne l'ai pas encore vu aujourd'hui, dis donc. Ouais, Vincent, oui. Et merci à Chris, Thomasis, Chris Méliès, d'être venu. On espère le revoir très vite dans la région et pourquoi pas avec Marc Bozonnet, justement. Merci à toi, Stan, pour ta deuxième participation dans l'émission. Tu étais parfait.
Merci.
Et en plus, tu avais une guitare aujourd'hui, donc c'était d'autant plus agréable.
Avec la guitare, c'est mieux.
C'est plus facile. Et surtout, un grand merci à toi, Alain, pour tout ce que tu nous offres depuis tant d'années. C'était vraiment un incontournable et quelqu'un qui, humainement, est très attachant et en plus doublé d'un artiste très talentueux. Alors, je te remercie encore une fois pour tout. Je vais te laisser le mot de la fin, forcément.
Non, merci à tous, vraiment, c'est très très sympa, il y a une super ambiance, mais je n'en doutais pas, vous ayant déjà rencontré. Par contre, je suis charmé de connaître les locaux, et c'est vraiment très très sympathique ici. Voilà, merci à tous, merci à vous, merci aux auditeurs, merci à Dieu, merci aux
non, pas eux, non. Allez, on se retrouvera très bientôt, en tout cas, Alain, et en attendant, bonne route à toi, et puis je vous rappelle l'adresse du site internet, surlaroute66.free.fr, où il y a de nombreuses mises à jour qui sont faites régulièrement. Il y aura bientôt, évidemment, un reportage sur la venue de nos amis dans l'émission. On se quitte avec un ultime titre issu de cet album, Grey Boy Blues, que je vous recommande vivement justement, on en a déjà passé de nombreux extraits dans l'émission, paru sur le label Dixie Frog. Vous pouvez le trouver chez tous les bons marchands de couleurs ou sur internet évidemment. C'est un titre enregistré avec une chanteuse guitariste que tu apprécies particulièrement également, Madame Joanna Connor, qu'on ne voit plus assez en France malheureusement.
Ouais, elle est un peu trop particulière, Joanna, pour... to fit with the music biz.
Ok. En tout cas, ce morceau est très très bon. Ça s'appelle Down the Drain. On se retrouve la semaine prochaine. Salut à tous et merci de votre fidélité. Bye.
Some bad. Shared all the happiness and all of the sad. We caught it all of that misery. We'll hide you, girl, and you have me. But you found something fresh. You wanted next be a pretty little flesh. Like a sewer when it rains, it all went down the drain. For you and I. For you and I. I'm so unhappy, but what can I do? Me. Then you found something fresh to put next to your pretty little flesh. Like a sewer when it rained, it all went down the drain. For you and I. Oh, for you and I.
tomorrow.